Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique durant laquelle nous expliquons ce que la Bible enseigne sur des thèmes touchant notre quotidien.
La plupart d'entre nous passons nos journées occupées à travailler. Aussi, nous semble-t-il important de découvrir ce que la Bible nous apprend à ce sujet. Jean-Marc est présent parmi nous pour nous conduire dans nos réflexions. Et aujourd'hui, pour la troisième fois, il nous parlera de l'enseignement de l'apôtre Paul concernant les relations entre maître et esclave. Ses propos restent pertinents pour nous aujourd'hui. Il touche toutes les relations d'employé à employeur.
Nous allons commencer notre discussion en réécoutant le texte biblique que nous avons déjà lu la dernière fois. Il se trouve dans l'épître de Paul aux Colossiens chapitre 3, verset 22, et nous le lirons jusqu'au chapitre 4, verset 1.
Esclaves, obéissez en tout point à vos maîtres terrestres, et pas seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais de bon gré, parce que vous révérez le Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela par égard pour le Seigneur et non par égard pour des hommes. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est le Christ. Celui qui agit mal recevra quant à lui le salaire que méritent ses mauvaises actions, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Maître, traitez vos serviteurs avec justice et d'une manière équitable, car vous savez que vous avez, vous aussi, un maître dans le ciel.
Jean-Marc, bonjour.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
De nos jours, nous pouvons établir un parallèle entre ces maîtres d'esclaves et toute personne occupant un poste de responsabilité, tout individu ayant des employés à sa charge.
C'est exact, Yann. Et la leçon principale qui se dégage de ces versets lus tout à l'heure est celle-ci. Notre conduite envers nos employés ou tout subordonné doit refléter celle du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Paul le rappelle, Jésus est notre maître, il est le Seigneur et nous devons lui rendre compte de toutes nos actions. Le Seigneur est juste et c'est cet exemple de justice que nous devons suivre sur notre lieu de travail et dans nos relations avec nos employés.
Parlez-nous donc de la façon dont nous pouvons pratiquer la justice au travail.
D'abord, replongeons-nous dans le contexte de l'Empire romain, où l'esclavage y était couramment pratiqué. Les esclaves ne disposaient d'aucun droit. Il était alors facile pour les maîtres d'abuser de leur position de pouvoir. Ils pouvaient les maltraiter, les faire travailler des heures excessives et ignorer leurs besoins essentiels. Ils pouvaient ainsi ne pas s'intéresser à leur santé, ni leur donner suffisamment à manger. C'est dans un tel contexte que Paul parle d'exercer la justice. Il exige d'une part que les maîtres s'abstiennent de toute cruauté, et d'autre part qu'en retour du travail rempli, leur devoir soit de bien s'occuper de leurs esclaves, de leur accorder de quoi se nourrir, de leur donner du repos, de pourvoir en un logement acceptable et de leur faire bénéficier de soins médicaux.
Et comment appliquer ces propos à notre propre contexte?
De nos jours, les ouvriers et les employés disposent de plus de droits. Il est vrai que ces droits varient d'un pays à l'autre. Cependant, un employeur juste appliquera les conditions de travail en vigueur dans son pays afin de faciliter la vie de ses employés. Malheureusement, certains employeurs peuvent priver leurs employés de leurs droits en exerçant sur eux une pression ou en les intimidant, de telles conduites sont injustes et n'honorent pas l'Éternel.
Quelles devraient être les obligations des employeurs envers les employés?
D'abord, un employeur devrait se demander si le salaire qu'il verse à ses employés est juste. Certains employeurs exigent beaucoup trop de leurs employés pour en retour ne leur accorder qu'un maigre salaire. Voilà un exemple d'exploitation.
Mais est-il possible de définir ce qu'est un salaire juste?
Répondre à cette question n'est pas facile, car beaucoup de facteurs doivent être pris en considération lors des calculs de salaire. Les situations sont si différentes d'un pays à l'autre. Cependant, si une personne travaillant tous les jours durant de longues heures reçoit un salaire qui ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, il semblerait en effet qu'elle soit victime d'une pratique injuste.
Donc un employeur juste doit récompenser de façon appropriée tout travail rendu. Mais pratiquer la justice au travail soulève beaucoup d'autres points, me semble-t-il.
Oui, bien sûr, Yann. En ce qui concerne les horaires travaillés, il est injuste qu'un employeur exige de ses employés de travailler excessivement de longues heures durant. Une fois de plus, les lois ou les habitudes varient d'un pays à l'autre. Mais si les horaires exigés empêchent une personne de bénéficier d'un repos suffisant, un grave problème se pose. À présent, abordons un autre sujet. Certains employés exercent un métier qui les expose à de multiples dangers ou présentant des risques pour leur santé. Un employeur juste fera tout ce qui lui est possible pour assurer la sécurité de ses employés et les protéger des risques encourus. Malheureusement, il existe des employeurs qui négligent ces questions et qui ne se soucient guère de leurs employés. La Bible nous enseigne à aimer notre prochain. Tout employeur devrait considérer ses employés comme son prochain, digne de recevoir le respect et l'amour indispensable à son bon épanouissement.
Merci Jean-Marc. Je pense que nous pourrions évoquer beaucoup d'autres points sur ce thème touchant la justice au travail.
C'est vrai, Yann. Beaucoup de problèmes peuvent survenir sur un lieu de travail et les employeurs s'y trouvent confrontés tôt ou tard à des difficultés qu'ils doivent résoudre. Ce que nous voulons retenir, c'est l'enseignement que la Bible nous confie. La justice et l'amour sont des principes qui doivent façonner notre façon de réagir lorsque nous sommes confrontés aux diverses situations liées au travail. Il faut laisser ces principes guider nos réponses, amener des solutions et nous permettre d'honorer le Seigneur.
Mais dans le texte lu au début de notre discussion, Paul demande au maître non seulement d'être juste, mais d'être aussi équitable. Qu'est-ce que cela veut dire, agir d'une manière équitable?
Tout simplement qu'un employeur devrait traiter tous ses employés de la même façon. Il devrait éviter le favoritisme ou la discrimination. Il devrait refuser de favoriser certains employés au détriment d'autres.
Pouvez-vous nous donner des exemples?
Admettons que vous voulez accorder une promotion à l'un de vos employés en lui permettant d'accéder à un poste plus élevé. Et voilà que deux candidats se présentent pour ce même poste. L'un, un cousin éloigné, travaillant depuis peu dans l'entreprise. Il a peu d'expérience, il ne dispose pas de diplôme. Tandis que l'autre candidat possède toutes les qualités requises pour le travail en question. Et de plus, il a fait ses preuves dans l'entreprise durant de nombreuses années. Cependant, ce dernier employé ne pratique pas la même religion que vous, ni n'est issu de la même tribu. Alors le favoritisme consiste à accorder à votre cousin ce poste, tout simplement parce qu'il est issu de votre famille. La discrimination, quant à elle, consiste à refuser ce poste à l'autre personne, qui pourtant en a toutes les compétences, tout simplement sur la base de sa religion ou de sa race.
Merci Jean-Marc d'avoir soulevé ce point important. Et merci de nous avoir montré la pertinence de l'enseignement de l'apôtre Paul tout au long de notre discussion. Ces sujets donneront matière à réflexion à nos auditeurs ayant des employés à leur charge.
Nous poursuivrons donc notre série sur le travail la prochaine fois. À présent, nous allons méditer sur quelques paroles de Jésus trouvées dans l'évangile de Luc.
En fait, tout comme la dernière fois, nous allons réfléchir sur les vives critiques que Jésus a adressées aux pharisiens. Et nous nous pencherons plus particulièrement sur l'une d'entre elles, dont les paroles devaient être certainement dures à entendre.
Mais quelle est donc leur portée pour nous aujourd'hui?
Jésus, en remettant en question l'attitude des pharisiens, désirait leur venir en aide. Il voulait les amener vers une meilleure compréhension de la foi. Il souhaitait les libérer des habitudes qui les empêchaient de vraiment connaître l'Éternel. Malheureusement, les mêmes pièges peuvent nous guetter aujourd'hui encore, et notre désir, en reprenant ces paroles de Jésus, est d'amener le chrétien à croître spirituellement, tout en ayant les regards fixés sur le Seigneur. Écoutons alors cet extrait de l'Évangile de Luc où Jésus s'adresse aux pharisiens. Il s'agit du chapitre 11, verset 52.
Malheur à vous, enseignants de la loi. Vous vous êtes emparés de la clé de la connaissance. Non seulement vous n'entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire.
Les enseignants de la loi avaient pour responsabilité d'instruire le peuple et de les conduire à la foi juive. Malheureusement, selon Jésus, ces enseignants avaient échoué dans leur mission et le peuple en souffrait. Mais que s'est-il passé pour que tout en arrive là? D'abord, il est probable que ces enseignants se déclaraient être les seuls investis du droit d'interpréter les Écritures. Ils devaient par conséquent décourager ceux qui voulaient lire et méditer la parole de Dieu. Ils devaient certainement dénoncer toute personne voulant apporter une interprétation autre que la leur. Cependant, un problème profond se pose. Selon Jésus, ces enseignants sont plongés dans l'erreur. Leurs raisonnements sont faux. Non seulement ils s'égarent eux-mêmes, mais le peuple entier avec eux. Leur façon de se comporter empêchait la vérité de Dieu d'être révélée et apportée aux hommes. Quel dommage! C'est alors que Jésus intervient dans ce contexte et les évangiles le présentent comme celui qui a la clé de la connaissance. Prenons par exemple l'évangile de Jean. Jésus déclare « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Autrement dit, Jésus annonce qu'il est celui qui nous permet de voir. Il nous permet de découvrir Dieu, de comprendre les vérités spirituelles essentielles le concernant. Il est celui qui nous permet de sortir des ténèbres, de l'ignorance et de l'erreur. Jésus affirme également « Je suis le chemin, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Les enseignants de la loi avaient imposé à tous une multitude de règlements, tout en croyant que si les hommes les respectaient minutieusement, ils obtiendraient la faveur de Dieu. Or, une telle croyance est fausse. Jésus dénonce leur erreur par son enseignement, sa mort sur la croix, ainsi que par sa résurrection. De même, de nos jours, certaines institutions religieuses ou responsables religieux voudraient nous imposer une liste d'interdits ou des rites à accomplir. Ils nient, en fait, et occultent ainsi toute l'importance du Seigneur Jésus et de sa puissance à travers l'œuvre de sa mort sur la croix, puis de sa résurrection. Or, nous voulons vous diriger vers Jésus le Sauveur. Il est la clé de la connaissance. Il est la vérité. En lui se trouve la véritable vie, la vie spirituelle et éternelle.
Merci Flavien pour ces paroles claires et percutantes qui nous conduisent vers Jésus. C'est ainsi que s'achève notre série de méditations et nous espérons que vous en avez tiré du bien, que cette discussion vous permette de mieux connaître Jésus et mieux le suivre.
Notre série sur le travail se poursuivra la prochaine fois. En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.